Afrique. Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 6 août 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Kamala Harris, candidate des démocrates à la présidentielle américaine, a choisi comme son colistier Tim Walz, gouverneur du Minnesota. La police nigériane a arrêté plus de 90 manifestants arborant des drapeaux russes alors que le pays entre dans sa sixième journée de manifestation. Le président du Bangladesh a dissous le Parlement mardi au lendemain de la prise de contrôle du pays par l'armée. Et dans notre partie magazine, nous reviendrons sur le choix de Tim Walz comme colistier de Kamala Harris dans la course à la Maison Blanche avec le professeur Mohamed Bodge de l'Université de Manhattan à New York.
J'avais en fait limité mon choix à Andrew et Kelly, donc les sénateurs.
Nous vous fixons aussi notre rendez-vous quotidien sur les Jeux Olympiques à Paris. Pour l'instant, le journal. La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, a choisi aujourd'hui son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Jean-Roger Billon.
Tim Walz, candidat à la vice-présidence, formera avec Kamala Harris le ticket démocrate pour la présidentielle du 5 novembre. L'ancien militaire et enseignant de 60 ans a siégé pendant 12 ans au Congrès américain. Il est gouverneur depuis 2019 d'un État solidement ancré dans le camp démocrate, mais dont les électeurs des zones rurales ont largement voté ces dernières années pour Donald Trump. La désignation par Kamala Harris de son colistier marque sa première décision majeure en tant que candidate du Parti démocrate pour l'élection présidentielle après avoir été officiellement investie lundi. Depuis le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, l'actuelle vice-présidente a donné un coup d'accélérateur à sa campagne. S'il reste secondaire dans le choix final des électeurs, les candidats à la vice-présidence peuvent constituer un atout ou un désavantage pour les prétendants à la Maison-Blanche, selon leurs antécédents, leur popularité ou leur ancrage dans leur état d'origine.
Kamala Harris se dit fière d'avoir choisi Tim Walz comme colistier. La candidate démocrate s'est tournée vers un gouverneur blanc venu du Midwest pour la seconder dans sa campagne face à Donald Trump. Yacouba Ouedraogo.
C'est l'honneur d'une vie, a déclaré Tim Walz, 60 ans, promettant de tout donner, ajoutant avec humour, cela me rappelle un peu le premier jour d'école. Pas franchement connu en dehors des frontières de l'État du Minnesota, dont il est le gouverneur, cet ancien professeur et entraîneur de football a un parcours atypique. En tant que gouverneur, entraîneur, enseignant et vétéran, Tim Walz a défendu les intérêts des familles de travailleurs comme la sienne, fait valoir Kamala Harris. Ancien militaire de la garde nationale, il vient du monde rural, contrairement à la vice-présidente, ce qui pourrait séduire un électorat plus large parmi les indécis. Vu comme plutôt modéré, il a toutefois pris des mesures étiquetées progressistes, comme la législation de l'usage récréatif de la marijuana et le renforcement des contrôles à l'achat d'une arme à feu, tout en se revendiquant chasseur. L'équipe de campagne de Donald Trump l'a qualifié de dangereux gauchiste extrémiste. Walz devrait être présent ce soir pour le premier meeting en tandem avec la candidate Kamala Harris à Philadelphie, en Pennsylvanie, l'un des États clés qui a porté Joe Biden à la Maison-Blanche en 2020.
Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a affirmé mardi que sa formation et l'Iran sont obligés de riposter à Israël, quelles qu'en soient les conséquences, après les assassinats du chef politique du Hamas et du responsable militaire du Hezbollah. Le discours retransmis en direct du chef de la puissante formation pro-iranienne a été intervenu au moment où les craintes d'un embrasement régional entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre s'intensifie sur fond de guerre dans la bande de Gaza. Hassan Nasrallah a affirmé que le Hezbollah va riposter seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée de tout l'axe de la résistance dirigée par Téhéran et qui regroupe ses alliés dans la région. La communauté internationale est engagée dans une course contre la montre pour éviter une escalade militaire. Israël est sur le qui-vive depuis près d'une semaine en attendant la riposte promise par l'Iran et ses alliés. En Grande-Bretagne, une semaine après le début des émeutes imputées à l'extrême droite, de nombreux suspects ont défilé mardi devant la justice où le gouvernement affiche sa fermeté et mobilise 6 000 policiers spécialisés et plus de 500 places de prison. Au lendemain d'une nouvelle soirée émaillée d'incidents à Belfast en Irlande du Nord et Plymouth dans le sud de l'Angleterre, la journée a été rythmée par les suites judiciaires des quelques 400 arrestations survenues ces derniers jours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus d'une jeune femme sur 10 dit avoir subi un viol dans les camps de déplacés de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon une enquête publiée mardi par Médecins sans frontières qui s'inquiète de niveau alarmant de violence. Les résultats de cette enquête concordent avec le nombre extrêmement élevé de cas de violence sexuelle traités par les équipes médicales de MSF dans les différents sites de déplacés autour de Goma, assure Camille Niel, coordinatrice d'urgence pour MSF à Goma. Au Nigeria, plus de 90 manifestants arborant des drapeaux russes ont été arrêtés en marge des manifestations contre la vie chère. Les manifs se poursuivent aujourd'hui pour la 6e journée consécutive. Davantage avec Alexandrine Hollognon.
Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, un porte-parole du service de renseignement du Nigeria indique avoir appréhendé certains couturiers de l'état de Kano, responsables de la fabrication des drapeaux russes distribués dans la région. Un geste condamné fermement par le chef de l'armée nigériane. De son côté, l'ambassade de Russie au Nigeria a nié toute implication dans cette affaire. Les intentions de certains manifestants de brandir des drapeaux russes sont des choix personnels et ne reflètent aucunement la position ou la politique officielle du gouvernement russe en la matière, a déclaré l'ambassade dans un communiqué publié sur son site internet. Des milliers de manifestants se sont rassemblés depuis jeudi au Nigeria pour protester contre la hausse des prix et la mauvaise gouvernance. La mobilisation a faibli au fil des jours suite à la répression. Mais des centaines de manifestants sont tout de même descendus dans les rues lundi, dans les États du Nord, Kaduna, Katsina, Kano et dans l'État du Plateau, dans le centre du Nigeria.
En Guinée, les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile ont appelé à une opération ville morte lundi prochain à Conakry pour protester contre la junte accusée de vouloir confisquer le pouvoir. Dans un communiqué diffusé mardi, les Forces vives de Guinée, un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile, prévoit également la reprise des manifestations sur l'ensemble du territoire national sans donner de date précise. Près de 3 ans après le coup d'État de septembre 2021, la perspective d'un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée ne cesse de s'éloigner. La junte a déjà fait savoir qu'elle manquerait à l'engagement initialement pris sous la pression internationale de céder la place à un régime civil d'ici à la fin 2024. Au Bangladesh, au lendemain de la prise de contrôle du pays par l'armée, le président Mohamed Shahabuddin a dissous le Parlement, donnant satisfaction aux étudiants dont le mouvement de contestation a chassé du pouvoir la première ministre Sheikh Hasina. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Le président a dissous le Parlement, a déclaré un porte-parole de la présidence dans un communiqué. Le chef de l'armée, le général Waker Ouzaman, qui doit rencontrer les dirigeants du mouvement étudiant, a annoncé hier la formation prochaine d'un gouvernement intérimaire. Il a promis de réparer toutes les injustices. Le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, est dit prêt à prendre la tête d'un gouvernement intérimaire, tout en appelant à l'organisation d'élections libres dans une déclaration écrite. Le principal syndicat des policiers au Bangladesh a demandé pardon pour avoir tiré sur des étudiants, alors qu'au moins 413 personnes sont mortes depuis début juillet dans les manifestations à travers le pays. Ce syndicat a aussi annoncé dans un communiqué une grève pour garantir la sécurité des policiers. Les protestataires qui appelaient à la dissolution du Parlement exigent désormais des élections d'ici 3 mois.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé lundi le chef de l'armée soudanaise à prendre part aux pourparlers de paix qui débuteront le 14 août en Suisse pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravage le Soudan. M. Blinken a assuré au général que ces pourparlers de cesser le feu constituaient le seul moyen de mettre fin au conflit. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. Place maintenant au sport, les Jeux Olympiques avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des Jeux Olympiques qui se poursuivent en France. Aujourd'hui, c'est le 11e jour de ces JO Paris 2024. Nous commençons par l'épreuve du saut en longueur chez les dames. 4 Africaines se sont qualifiées pour la finale prévue ce jeudi. Il s'agit des Nigérianes Ese Brumé, Ruth Usoro, Prestina Olushi, Okonogon et la Burkinabé Marthe Kwala, dont le directeur technique national se dit confiant pour la suite.
Je pense que c'est une grande satisfaction parce que les qualifs sont toujours les plus difficiles à aborder parce que toutes les meilleures du monde sont là. Après demain, à la finale du soir, je crois que les choses peuvent terriblement changer à notre faveur.
Au vu de sa performance, 6 mètres 65 et de la performance aussi des autres athlètes, est-ce que vous avez des espoirs de médailles en saut en longueur?
Rappelez-vous bien qu'en 2023 seulement, dernier championnat du monde passé, Matt a un seul essai avec la performance qualificative 6 mètres 44, tandis que celle qui a gagné même la longueur championnat du monde en 2023 à Budapest, a eu des difficultés pour se qualifier et c'est elle qui avait gagné la finale et Matt a eu des difficultés en finale. Donc, c'est pour dire que les préliminaires, ou du moins les qualificatifs, en tout cas dans les concours, ce n'est pas essentiel et la plupart du temps, il y a des grandes surprises.
Missiri Sawadogo, directeur technique national de la Fédération Burkinabé d'athlétisme. L'autre espoir de médaille Burkinabé, c'est Hugues Fabrice Zango qui concourt pour les qualifications pour la finale en triple saut. Dans la finale du 200 mètres féminin, la Nigériane Favour Ofili devra se méfier de la Saint-Lucienne Julien Alfred, déjà vainqueur du 100 mètres, à suivre aussi les finales hommes du 1500 mètres. Toujours ce soir, la boxeuse algérienne Iman Khelif va disputer les demi-finales dans la catégorie des moins de 66 kg. Elif, dont le genre féminin a été remis en cause par la Fédération internationale de boxe en 2023, affronte la Thaïlandaise Jangjaem Sunawafeng. En basketball masculin, l'Allemagne, championne du monde en titre de basket, a souffert face à la Grèce de Gianni Antetokounmpo, qu'elle a fini par dominer 76-63 pour atteindre sa première demi-finale olympique. Elle va affronter ce jeudi la France ou le Canada opposé. De son côté, la Serbie de Nikola Jokic s'est qualifiée au bout du suspense pour les demi-finales en éliminant l'Australie 95-90. Les Serbes, vice-champions du monde en titre, affronteront les États-Unis ou le Brésil qui jouent ce soir pour une place en demi-finale. L'Afrique était attendue dans les courses où elle excelle habituellement. La règle a été respectée hier. Le continent a brillé en athlétisme mais déçu en football masculin. Abdourahmane Dia fait le point.
Il n'y aura pas d'équipe africaine en finale. Le Maroc et l'Égypte ont été stoppés en demi-finale par l'Espagne et la France qui vont s'affronter vendredi pour la médaille d'or. Après avoir mené 1-0, les Égyptiens ont plié les Chines face aux Français 3-1 après prolongation. Dans l'autre demi-finale, les Marocains se sont inclinés 2-1 devant les jeunes Espagnols au stade Vélodrome de Marseille.
Franchement, on est déçus, mais bon, ils ont bien joué, ils ont fait une belle prestation. Ils avaient l'air fatigués avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, mais ils ont fait une belle compétition. Maintenant, en espérant qu'on va gagner pour la troisième place, on va essayer d'aller chercher la médaille de bronze.
Alors, je suis déçu parce que moi, je suis venu supporter le Maroc parce que c'est grâce au Maroc qu'on a pu remporter la CAN étant ivoirien. Et le match d'aujourd'hui, c'est triste parce qu'on mène 1-0 et on perd 2-1 dans les dernières minutes. Mais voilà, c'est le jeu, c'est la compétition.
En fait, à chaque fois que les Marocains, que les Espagnols touchaient le ballon, les Marocains sifflaient. Je n'ai pas trouvé ça très fair play parce qu'on est quand même aux Jeux Olympiques. Et je pense que c'est ce qui l'a primé avant tout, quoi. C'est le sport et non pas ce genre de comportement. Ça m'a un petit peu déçu, mais voilà.
Satisfaction africaine par contre en athlétisme. La record woman du monde kenyane du 10 000 mètres, Béatrice Chebet, a été sacrée championne olympique du 5 000 mètres en 14 minutes 28 secondes 56 centièmes devant la néerlandaise Sifan Hassan. Chebet, deux fois médaillée mondiale mais jamais aux JO, remporte ainsi son premier titre olympique. Initialement deuxième, l'autre Kenyan, Faith Kipyegon, a été disqualifié pour obstruction sur l'Éthiopienne Gudaf Segei, finalement huitième. Pour ce qui est du 800 mètres, la Britannique Kelly Whitkinson, grande favorite, a remporté son premier titre olympique en 1 minute 56 secondes 72 centièmes. Elle a devancé l'Éthiopienne Sigé Duguma et la Kenyane Marie Mora.
Merci Abdou. Voilà, c'est tout pour ce journal des JO de ce mardi 6 août.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle du 5 novembre, a choisi Tim Walz, gouverneur de l'État du Minnesota, comme colistier et potentiel vice-président en cas de victoire. Tim Walz, 60 ans, est réputé pour avoir pris des mesures considérées comme progressistes depuis son accession en 2019 au poste de gouverneur de cet État du Midwest, région clé pour novembre. Pour une analyse, Jean-Roger Billon a joint à New York l'historien et analyste politique Mohamed Bouch.
Je vais en fait limiter mon choix à Andrew Dean et Kelly, le sénateur, parce que ces deux-là représentent ce dont Kamala Harris a besoin. Des voix du Midwest, des voix des vétérans, des voix des hommes blancs, disons. Donc c'est pourquoi c'est certainement ce choix-là qui s'imposait à elle.
L'opposition au Parti démocrate dit que c'est un dangereux gauchiste. Quelle est la plus-value attendue du nouveau colistier dans le ticket démocrate?
Oui, parce que de plus en plus, beaucoup de gens pensent que Kamala Harris est un peu plus progressiste que Biden, et donc on va l'attaquer de ce côté-là. Donc Walz va être le pendant plus à droite, plus centriste, mais il n'est certainement et absolument pas gauchiste. Je crois que c'est parmi la première demi-douzaine de personnes de calibre qui se sont alignées derrière Kamala Harris dès que Biden a retiré sa candidature. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir des choix et de le dire clairement et ouvertement.
Dans la campagne en cours, le plus souvent le reproche fait aux démocrates est la faiblesse de l'économie. Peut-on dire que le choix de Tim Walz va combler ce déficit?
Oui, c'est quelqu'un qui est d'origine rurale, qui a vécu dans deux états clés, ce qu'on peut appeler le ventre de l'Amérique, Nebraska et Minnesota. Et donc quelqu'un qui a aussi représenté des districts ruraux, donc des districts qui étaient souvent très républicains et qui fondamentalement a su leur parler pour se faire élire et se faire réélire jusqu'à se faire élire gouverner. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il va pouvoir dire à ces gens du Midwest d'une manière générale que l'agriculture va venir se porter, qu'il va avoir un plan pour soutenir l'agriculture et les agriculteurs américains qui sont souvent épuisés à se plaindre de tout ce qui se passe dans ce pays en termes économiques, et aussi d'être capable de montrer qu'en réalité, surtout avec son franc-parler, disons son vocabulaire direct, c'est pas très compliqué, d'expliquer aux gens qu'en réalité, ils vivent dans une période économique beaucoup plus favorable qu'ils le pensent, et qui va être capable aussi de faire la comparaison avec sous Trump, parce qu'on a un peu cette impression que sous Trump, tout marche bien, ce qui n'est absolument pas le cas. L'inflation a commencé sous Trump, les barrières commerciales ont été érigées sous Trump, la compétition perdue par les Américains dans certains domaines stratégiques a été sous Trump. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va soulever tous ces cafards, comme on dit, pour montrer qu'en réalité, on est peut-être dans une meilleure situation que les gens, et en particulier les journalistes, nous le disent.
Mohamed Bouch, professeur d'histoire à l'Université Manhattan de New York.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'armée américaine a fermé lundi sa dernière base au Niger, à Agadez, répondant aux exigences du régime militaire. Face au récent coup d'État et à l'instabilité politique croissante en Afrique, Washington devrait-il reconsidérer ses investissements en sécurité et développement sur le continent? Eric Manilakiza a joint dans la capitale américaine Michael Shulkin, politologue à 14N Stratégie.
Il faut se demander vraiment s'il y aura un effet sur la capacité des Américains, vu que les Américains, en réalité, ne faisaient pas grand-chose du point de vue de la lutte antiterroriste. Ce sont des bases de surveillance, on surveillait, on recueillait des renseignements, mais en général, les Américains n'étaient pas du tout actifs dans la lutte. Ils n'étaient pas comme la France. Les Français étaient là avec des troupes sur le terrain. Aussi, les Américains aidaient les Français beaucoup. Alors, on peut dire que c'était le départ des Français qui a vraiment assabli la capacité américaine à mener la lutte contre les terroristes, parce que le rôle plus important pour les Américains, c'était de soutenir les Français.
Mais il y avait le volet formation.
Oui, il y avait le volet formation, mais encore une fois, les Nigériens semblent croire que cette formation américaine ne valait pas grand-chose. Qui ne veut pas dire qu'ils avaient raison. Peut-être c'était très utile. Il se peut que c'était utile, mais les Nigériens, pour des raisons, pour des raisons politiques, préfèrent dire que ce n'était pas valable, que ce n'était pas utile. Mais en fin de compte, les problèmes du Niger sont si grands. C'était une petite aide face aux grands problèmes. La formation qu'on a fait, c'était à une petite échelle. C'était jamais suffisant, je dirais. Peut-être nécessaire, mais c'est pour les Nigériens à juger.
Cette base d'Agadez, c'était quand même un investissement important. À la lumière des récents coups d'État et l'instabilité politique croissante dans plusieurs pays africains, pensez-vous que les États-Unis doivent reconsidérer leurs investissements en matière de sécurité et de développement en Afrique?
Oh, tout à fait, il faut juste se poser des questions. Les investissements, est-ce qu'ils apportent une valeur? C'est quoi le retour pour cet investissement? Est-ce que ça marche? Il faut demander, est-ce que c'est une politique correcte? Je n'ai pas la réponse, mais je veux dire qu'il faut toujours, et j'espère que le gouvernement américain se pose des questions. Maintenant que c'est fermé, il faut vraiment faire une enquête. Il faut tout questionner, tout mettre en question en ce moment. Parce que évidemment, la stratégie qu'on a eue jusqu'ici a échoué. C'est un échec. Alors, face à tout échec, il faut prendre un moment pour se poser des questions et pour se demander mais comment ça se fait qu'on se trouve dans une telle situation.
Alors, face à la montée des discours anti-occidentaux et aux sentiments anti-américains au Sahel, quelles approches diplomatiques et sécuritaires des États-Unis peuvent-ils adopter pour renforcer leurs partenariats locaux et améliorer la perception de leur rôle dans la région?
Il faut que les Américains y fassent très attention. Face à cette montée populariste, il y a très peu de choses qu'on peut faire parce que ce sont des sentiments de la rue, ce sont des sentiments populaires, ce sont des idées qui sont promues pour les réseaux sociaux. Ce n'est pas évident comment les États-Unis peuvent contrer ces images, contrer ces idées.
Michael Shulkin, politologue à 14N Stratégie.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Le président américain Joe Biden a rencontré son équipe de sécurité nationale et s'est entretenu avec le roi de Jordanie pour désamorcer les tensions vives au Moyen-Orient après une série d'assassinats très médiatisés. Le leader d'Israël a averti que son pays ferait payer un lourd tribut s'il était attaqué par l'Iran ou ses mandataires dans la région. Un reportage d'Anita Powell de VOA, récit Blanche Sanou.
Les tensions sont vives au Moyen-Orient avec Israël qui est confronté à des menaces de l'Iran et du Hezbollah. Les forces israéliennes tentent d'éliminer le Hamas à Gaza après près de 10 mois de conflit. À Washington, le président Joe Biden tente de calmer les choses après les assassinats de 2 personnalités anti-israéliennes la semaine dernière. La Maison-Blanche a déclaré ce week-end qu'elle s'engageait à parvenir à un accord de libération d'otages et de cesser le feu qui jusqu'à présent est resté introuvable. Washington s'est dit prêt à réagir et à déployer des ressources militaires dans la région.
Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, s'est exprimé sur Fox News Sunday.
Nous pensons toujours qu'un accord de cessez-le-feu est le meilleur moyen de mettre fin à cette guerre. L'autre chose que nous faisons depuis le 7 octobre est de nous assurer que non seulement Israël a ce dont il a besoin pour se défendre, mais que cette guerre ne s'intensifie pas pour devenir quelque chose de plus large.
Le risque d'embrasement de la région est réel et apurant. Natasha Hall est chercheure au sein du programme Moyen-Orient au Centre d'études stratégiques et internationales.
Je pense que l'une des raisons pour lesquelles cela est aussi effrayant, pour être honnête, pour tout le monde, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que les États-Unis peuvent faire quand nous sommes au bord du gouffre comme ça.
Les activistes de la communauté musulmane américaine, qui ont critiqué le soutien ferme de Biden à Israël, affirment que Washington devrait adopter une position ferme sur l'agression israélienne à Gaza. Robert McCall est directeur du département des affaires gouvernementales au Conseil des relations américano-islamiques.
Les États-Unis disposent d'un large éventail d'outils diplomatiques et politiques pour demander des comptes à Israël, qu'il s'agisse de refuser l'aide, les munitions, les armes, le soutien pour politique ou de sanctionner davantage les Israéliens d'extrême droite qui se sont livrés à la violence.
Le premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël était déterminé à s'opposer à l'Iran et à ses mandataires sur tous les fronts.
Quiconque assassine nos citoyens, quiconque porte atteinte à notre pays sera tenu responsable. Il payera un prix très lourd.
Le ministre jordanien des Affaires étrangères a récemment effectué une visite rare dans la capitale iranienne Téhéran et Joe Biden s'est entretenu lundi avec le roi Abdallah II de Jordanie au sujet de la désescalade.
Natasha Hall du Centre d'études stratégiques et internationales affirme que la diplomatie américaine avec l'Iran par le biais des médiateurs régionaux comme le Qatar ou la Jordanie pourrait être la meilleure voie à suivre.
Il suffit de parler à l'Iran, d'essayer de répondre à ses préoccupations, mais aussi d'être essentiellement un canal pour les États-Unis afin de garantir qu'il existe une sorte de communication ouverte pendant ces moments particulièrement effrayants. Et je pense que c'est plus que nécessaire puisque les États-Unis ne parlent pas directement aux hauts responsables iraniens.
Avec près de 40 000 morts, Gaza en ruine, le Liban et l'Iran en état d'alerte maximale, le monde attend de voir ce qui va se passer dans les jours à venir.
Au Kenya, les mangroves situées sur le long du littoral de Mombasa, la principale ville portuaire du pays, sont menacées de disparition à cause des bûcherons qui les coupent pour en faire du bois de chauffage ou construire des maisons. Pour les protéger, les habitants de la localité utilisent une méthode atypique mais efficace en dissimulant des ruches dans leur feuillage afin que les abeilles puissent attaquer les bûcherons qui s'y aventureraient. Thierry Kaoré.
Vêtus d'une combinaison de protection et armés d'un fumigène, Peter Nyongeza surveille les ruches le long de la côte de l'océan Indien. Après avoir exhorté en vain les bûcherons de ménager les mangroves, les habitants se sont vus obligés d'utiliser les abeilles comme stratégie.
Nous en sommes arrivés à un point où nous les supplions même de couper les arbres adultes et d'épargner les plus jeunes, parce qu'ils coupaient tous les arbres sans en replanter. En tant que voisins, nous les supplions de ne pas couper les arbres, mais ils nous rétorquent que les arbres n'appartiennent à personne d'autre qu'à Dieu.
Peter travaille avec un groupe de conservation locale appelé Tulunde Mikoko, qui signifie en swahili « protégeons les mangroves ». Le groupe a adopté l'apiculture en tant qu'initiative communautaire, au même titre que la plantation de mangroves. Les membres sont également les gardiens de ces mangroves et tentent de dissuader les bûcherons. Le groupe a dissimulé des ruches dans les branches supérieures des mangroves pour en faire des gardiens silencieux. Bibiana Mandjilula est la fondatrice du groupe de conservation Tulunde Mikoko.
Lorsque nous avons appris l'importance des mangroves, nous nous sommes consacrés à leur protection. Cependant, lorsque la nuit arrive et que nous rentrons chez nous, les bûcherons en profitent. Mais nous avons introduit des ruches et les avons placées au sommet, là où elles ne peuvent pas être repérées facilement. Comme les humains ont tendance à voir ce qui se trouve à la hauteur de leurs yeux, nous avons décidé de placer les ruches au sommet des mangroves feuillues. Ainsi, les bûcherons auront du mal à repérer les ruches car ils préfèrent les grands arbres aux arbres feuillus et courbés. Les abeilles n'aiment pas le bruit. Par conséquent, lorsque les bûcherons commencent à abattre un arbre, les abeilles attaquent à cause du bruit.
Peter Nyongeza dit que l'utilisation des abeilles a aussi un autre avantage.
Par exemple, lorsqu'il pleut beaucoup et que les fleurs s'épanouissent, les abeilles produisent du miel de bonne qualité et en grande quantité que je vends pour gagner ma vie.
Les mangroves, qui se développent dans l'eau salée, contribuent à prévenir l'érosion et à absorber l'impact des phénomènes météorologiques violents tels que les cyclones. Cependant, plus de la moitié des écosystèmes de mangroves du monde risquent de s'effondrer, selon la première évaluation mondiale des mangroves pour la liste rouge des écosystèmes de l'Union internationale pour la conservation de la nature, publiée en mai.
Selon un rapport du ministère kényan de l'Environnement datant de 2018, environ 40% des mangroves de la côte de l'océan Indien sont dégradées. Dans le comté de Mombasa, on estime que près de 50% de la superficie totale des mangroves, soit 1850 hectares, est dégradée.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.